crois que j'ai ça quelque part dans mes notes.
Faut juste pas aller sur LinkedIn, c'est ça la vraie solution. Salut Maïeu.
Salut Daoro.
Aujourd'hui, un nouvel épisode en vrac. On va parler de différentes petites choses. Mais avant tout ça, on va évidemment boire un petit peu de thé. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je bois le Maocha du Mont Rangzai, dans le Yunnan, en Chine. Alors les Maocha, c'est en fait dans la manufacture du pu'er. À la fin, généralement, c'est pas toujours le cas, mais beaucoup de pu'er sont compressés en galettes ou bien en petits... comment ils appellent ça ? Bouchons, je crois. Chuocha. Et le Maocha, en fait, c'est l'état du thé avant qu'il soit compressé.
Ok, ouais.
Donc des fois, bah, y a certains thés qui sont disponibles comme ça, d'autres non. Comparé au pu'er galette, c'est des thés qui ont du coup bah, fermenté beaucoup moins longtemps.
Mm-hmm.
Et qui ont, je trouve, dans tous ceux que j'ai goûté, en tout cas, moins ces notes très cuir animal, champignons, ce type de choses qu'on trouve dans les pu'er. Et voilà, donc du coup, c'est souvent des thés qui sont assez frais. J'ai un peu du mal à décrire un peu les notes que j'aurais sur celui-ci. Mais on est presque sur de l'agrume sans trop non plus être agressif.
Ouais.
C'est un côté, je trouve, agrume sans forcément des notes d'agrume directes. C'est un peu plus une évocation, quoi.
Comme ça, c'est pas trop fort non plus et tu peux quand même sentir le vrai goût du thé sans avoir juste l'impression de boire du citron, quoi.
Ouais, voilà. Celui-ci, je l'ai depuis un bon moment et je le consomme assez lentement. Toi, qu'est-ce que tu bois ?
Je bois un kukicha parce qu'on enregistre assez tard dans la journée, donc je voulais un peu moins de caféine. C'est le thé qui en a le moins en termes de thé traditionnel, simplement parce que c'est principalement un thé entre guillemets de reste. Au lieu d'infuser que les feuilles, déjà il y a aussi un peu les petites branches qui viennent avec, c'est voulu, hein. Et puis aussi, les feuilles qui sont sélectionnées, des fois, c'est des feuilles qui sont retirées parce que elles ne sont pas optimales pour des meilleurs thés. Mais du coup, au lieu de les jeter, ben, on en fait du kukicha. Donc, comme les feuilles, elles sont souvent un peu moins développées et qu'on a aussi un petit peu des branches, ben, forcément, il y a un peu moins de caféine. Enfin, je dis caféine, mais théine, tout ça, c'est un peu pareil. Ça a effectivement une image comme étant un thé de pas très bonne qualité, mais en fait, ce n'est pas du tout vrai parce que ça peut quand même être fait de manière soignée avec des bons plants quoi, qui donnent un certain goût.
Oui.
On est assez proche du thé vert, mais c'est beaucoup moins fin.
C'est vrai que c'est des thés que je bois assez peu.
Dans le précédent épisode, tu avais lu un livre qui s'appelait « There is no anti-mimetics division ». Plutôt, tu étais en train de le lire en comparaison avec sa version librement accessible, disons.
Oui.
Quand on a commencé la préparation de l'épisode d'aujourd'hui, tu m'as dit que tu l'avais terminé et que tu avais des petites choses à rajouter. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'épisode passé ?
Pas grand-chose à changer, c'est juste qu'on dirait que cette version est mieux. Donc, cette version éditée professionnellement, bah, elle a été retravaillée et certains points, on sent vraiment que l'histoire est plus ficelée. Dans la version libre, on sentait qu'il y avait des choses qui partaient un peu dans tous les sens, entre guillemets, sans forcément donner suite. Plein d'idées qui auraient pu être intéressantes de continuer, mais qui ne l'ont pas été.
Mmh.
Et cette version-là, bah, elle a tendance à justement éliminer un peu toutes ces branches qui avaient tendance à mener nulle part et reconcentrer un peu l'histoire et le fil directeur.
Mmh.
Donc la qualité est clairement meilleure. C'est vraiment très proche. Le déroulement est le même, la fin est la même, etc. Mais la manière dont la fin est amenée, je trouve, est plus réaliste dans le contexte de l'histoire.
S'il n'y en a qu'une à choisir, plutôt la version publiée en livre.
Je pense, oui. J'ai bien aimé la première version parce que bah, ça a été ma découverte de cet univers. Donc c'est un peu dur de dire laquelle des deux serait ma préférée. Mais cette deuxième version est beaucoup plus accessible. On sent que c'est plus fluide, qu'il y a eu un vrai travail d'édition, quoi. Si vous n'avez pas peur d'être perdu, parce que en même temps l'histoire vous amène à être perdu, donc ça colle. La première version est quand même assez intéressante pour ça, et en plus elle est accessible gratuitement. Mais il ne faut pas s'attendre à la même qualité d'édition. Récemment, j'ai découvert un site qui parle du coût de la guerre. aux États-Unis. Alors, donc, c'est évidemment pas un site très joyeux, mais c'est assez important parce que j'ai entendu dire qu'en ce moment, aux États-Unis, il y avait vraiment un énorme mouvement derrière, montré de manière beaucoup plus publique par beaucoup d'associations ou de groupes citoyens, de plus révéler combien coûte aux États-Unis la guerre, parce que c'est peu connu apparemment. Et ce site, donc particulièrement, reprend des chiffres qui démarrent, il me semble, en 1949. On fait un peu un bilan, que ce soit un coût économique, mais un coût en vie aussi, aux US uniquement, là, c'est du point de vue américain. Et par exemple, sur le site, si vous vous y connectez, il y a une war clock, qu'ils appellent ça. Combien ont été dépensés pendant que vous étiez en train de regarder la page? 28 000 dollars par seconde. 1 685 000 par minute.
C'est assez fou, quoi.
On est sur ce genre d'ordre d'idée. C'est des chiffres qui sont complètement hallucinants parce qu'on parle de 2,4 milliards par jour de dépenses.
J'ai découvert le site à peu près à l'instant, là. Mm. Et alors, c'est très, très dense.
Oui.
Ce que je serais curieux, parce que je n'arrive pas à voir où c'est, quand il parle du coût, est-ce que c'est déjà que le coût direct, c'est-à-dire voilà combien d'argent on investit dans les dépenses militaires, dans l'achat de munitions, voilà? Ou est-ce qu'il y a aussi les coûts indirects? Parce que, par exemple, en déclarant la guerre contre l'Iran, les prix du pétrole ont grimpé. Donc, ça leur coûte aussi de l'argent de plus à l'achat. Je ne pense pas que ce soit compté, là. J'ai l'impression que c'est plutôt que le coût direct, mais quand même...
Il y a un onglet méthodologie.
Ouais.
J'ai l'impression que la partie économique, c'est un coût qui est direct. C'est dépenses vraiment en dollars. Mmh. Ajusté pour l'inflation, ce type de choses. Ensuite, il y a une séparation sur les morts directes, les morts indirectes. Est-ce que c'était des civils, des militaires, ce type de choses. La page méthodologie explique un peu tout ça.
C'est très dense, en tout cas. Hein.
Mais le site est extrêmement dense, oui. Et puis, donc, contient, enfin, se veut en tout cas être une source qui liste toutes les guerres que l'Empire américain a menées depuis 1949. Et c'est beaucoup. Je ne sais pas si ce site-là spécifiquement a été créé par une université. Leurs données viennent entre autres du Brown University Cost of War Project, qui est un autre projet par l'université de Brown. Je ne sais pas où est cette université aux US. Là-dessus, ils ajoutent d'autres choses. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne mettent pas de lien direct vers ce projet, mais j'étais aussi tombé là-dessus. C'était un projet qui était spécifique autour du coup depuis le 11 septembre 2001. Mais voilà, donc c'est très dense et ça remet aussi en perspective le coût total parce que, évidemment, ils font des parallèles avec, avec cet argent, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Comme par exemple payer Medicare pour tout le monde aux États-Unis pendant 800 ans.
Ce serait pas mal d'avoir de la santé gratuite.
Résoudre la faim dans le monde pour 268 années. Bref, ils font pas mal de comparaisons de ce type-là.
Je suis un peu hypnotisé par tout ce que je vois en parcourant un petit peu la page.
Il y a aussi des choses en lien avec la guerre en Iran. Et là, il y a des choses jour par jour avec qui a dit quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'économie. Donc là, en l'occurrence, c'est lié au prix du pétrole, enfin, etc.
Ouais, je suis très étonné aussi du... Comment dire ça? De la peut-être neutralité du ton, ou en tout cas de ce qui paraît l'être. Parce que, par exemple, ils n'hésitent pas à catégoriser l'intervention en Afghanistan de 2001 à 2021 comme une défaite pour les États-Unis, ce qui n'est probablement pas le langage ou la pensée majoritaire, j'ai l'impression, aux États-Unis, qui doivent peut-être dire que non, mais c'est pas une claire victoire, mais ça va, on a fait ce qu'on devait, et puis on est reparti, alors que là, c'est non, perdu. Ce qui est bon signe hein, d'avoir une analyse lucide, disons, mais assez surprenant. Hein. Je ne sais pas trop quoi penser de, tu vois, pour nous, à part être effaré du « Ah oui, quand même, c'est cher et c'est vraiment pas utile, quoi. » Un argument de plus, s'il en fallait, que la guerre, c'est quand même jamais bien. Après, est-ce que ça pourrait être un truc pour essayer de convaincre un peu de l'opinion publique aux États-Unis de dire tout ça pourquoi? J'espère au moins que ça puisse avoir cet impact-là, quoi.
C'est ce qu'ils tentent de faire. J'étais tombé sur un article récemment, donc il fait un peu suite à notre épisode sur les réseaux sociaux à propos de TikTok.
Oui, c'est un article qui est assez vieux parce qu'il date du 11 octobre 2024. Mais j'en avais jamais entendu parler et j'avais jamais vu écrit noir sur blanc sur toutes les conclusions. C'est lié au procès que TikTok a pu subir aux États-Unis. Enfin, je dis procès, mais en fait, c'est peut-être plutôt l'enquête au Sénat, je ne sais plus là. Je crois que le contexte, c'était plutôt est-ce que TikTok, c'est un problème pour la sécurité nationale des États-Unis et...
Ouais, c'était quelque chose de style. Est-ce qu'ils l'ont banni pendant quelques jours ou semaines, il me semble, ou ils ne l'ont jamais fait, mais ils l'ont dit qu'ils allaient le faire?
Il y a eu plusieurs trucs, puis ça a conduit à la vente de la partie américaine de TikTok, là, qui maintenant est soi-disant indépendante de la partie chinoise, mais en tout cas, il y a effectivement eu des choses, voilà. Mais l'article ne parle pas du tout de ça, c'est juste que comme souvent aux États-Unis quand il y a un procès, beaucoup de documents sont mis à disposition du public, mm-hmm. et on peut découvrir des choses très intéressantes. Le vrai truc qui m'avait surpris, c'est que TikTok sait, parce que c'est eux qui ont étudié d'eux-mêmes en fait, c'est qu'ils peuvent rendre les gens accros à leur plateforme très rapidement, et c'est même chiffré et mesuré. Je vais lire deux, trois choses que j'ai vues dans l'article que j'ai traduit un peu en avance là. L'habitude est formée en 260 vidéos, mais il existe des vidéos qui sont courtes jusqu'à 8 secondes. Donc si on prend 260 vidéos la plus courte possible, en fait, en 25 minutes, on devient accro à la plateforme. Donc en termes d'addiction, est-ce que TikTok et les formats courts, parce qu'au final, les shorts de YouTube, c'est la même chose. Hein.
Oui.
Est-ce qu'on peut devenir accro? Est-ce que ça peut générer des addictions? Bon, est-ce que c'est une nouveauté que ce soit possible? Pour moi, pas trop, mais alors je ne pensais pas que ça pouvait être aussi rapide. Quoi.
Sur ces plateformes, il me semble que le temps max, c'est 1 minute.
Peut-être, ouais, ça, je ne sais pas trop.
Il me semble que c'était ça. Donc, dans le pire des cas, ça serait 4 heures, 220 minutes. Ouais, même 4 heures, c'est rapide.
Ça va vite, hein, ça va vite, ouais. Souvent, leurs excuses, c'est « oui, mais vous inquiétez pas, on a mis en place des trucs pour, par exemple, limiter l'utilisation par jour pour qu'on ne passe pas leur journée dessus, voilà. » Sauf que les limites, elles sont ridicules parce que la limite dans l'app, c'est 4 heures par jour, peut-être, si tu actives le mode protection. Mais ça change rien. C'est un bel effet d'annonce pour dire « mais vous inquiétez pas, vos enfants, ils pourront pas en rester dessus plus que 4 heures par jour. » Mais si l'addiction, elle est là à partir de 25 minutes, bon.
Même si c'est 30 minutes, en fait, c'est déjà trop, quoi. Il faudrait que ce soit 5 minutes max par jour.
Voilà. Puis ça, c'est pour créer l'addiction. Donc si tu l'as déjà, ton addiction, pour la maintenir, probablement, il faut pas 25 minutes. Après, ils disent aussi, ces documents-là, encore une fois, je cite l'article, que... Une utilisation compulsive s'accompagne d'une multitude d'effets négatifs sur la santé mentale, tels que la perte des capacités d'analyse, des capacités de mémorisation, de la réflexion contextuelle, de la profondeur des conversations et de l'empathie, ainsi qu'à une augmentation de l'anxiété. Et ça, c'est les modes de TikTok qui, du coup, sont tout à fait au courant de l'impact de leur application. Et à chaque fois, les petites excuses « non, non, mais vous en faites pas, tout va bien ». Apparemment, ils savent que non.
Ouais.
Enfin, il le savait en plus en 2024, enfin même avant, parce que si l'article sort en 2024. C'est...
Ces documents-là, ça devait être des documents qui dataient d'avant, du coup, qui ont été révélés pendant l'enquête.
Le fait que ça puisse nuire à l'accomplissement de responsabilités personnelles, que ça puisse nuire à un sommeil suffisant, que ça puisse nuire aux relations avec les gens, c'est des choses qu'on dit depuis quelques temps. Mmh. C'est même TikTok qui le dit, donc si c'est à ce point-là...
On est de nouveau complètement dans cette... dynamique où l'entreprise qui produit la chose sait à quel point c'est mauvais, mais continue de le produire. Mmh. Il me semble qu'il y a des documents de certains grands groupes pétroliers des années 70 et 60 qui disent que le pétrole et brûler du pétrole a un impact sur le climat et réchauffe le climat. Mmh. Ça, ce qu'on a discuté sur les PFAS aussi, similaire. 3M qui met lui-même une limite, comme ça il se protège un peu en cas de... Quand ça leur retombe dessus, mais la limite est beaucoup trop haute et même eux considèrent qu'elle est dangereuse. Mmh. C'est quand même assez hallucinant tout ça.
L'article date de 2024, donc est-ce que depuis là, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans leur pratique, etc. Alors,
qu'est-ce qui a changé, quoi?
Peut-être que suite à ces révélations-là, ils ont peut-être mis en place des trucs, voilà. Maintenant, la question qu'on peut quand même toujours se poser, c'est est-ce que ces trucs sont suffisants? Parce que bah comme on dit, si cette addiction, elle se fait super vite et qu'ils mettent une limite à 4 heures, c'est juste un effet d'annonce, quoi. Et la même chose, si y avait des points, par exemple, dans l'article de 2024, qui dit que TikTok avait tendance à enfermer les gens dans des bulles dont il est difficile de sortir, et surtout des bulles de choses tristes ou violentes, ou voilà, parce que c'est en fait ça qui retenait les gens. Une fois que les gens ils commençaient à aller regarder ce genre de vidéos, ils y étaient poussés de plus en plus parce que bah, ils restaient fascinés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils s'en sont rendus compte et qu'ils ont diminué l'algorithme? Ben, peut-être, j'en sais absolument rien. Maintenant, est-ce que ça peut être vérifié ou pas? Ça me paraît difficile aussi. Ma première réaction, c'est quand même mieux de s'en tenir éloigné, ouais, que ce soit à TikTok ou les autres formats courts, et de consommer vraiment le minimum possible, parce qu'on met vite le doigt dedans et on se fait vite avoir, même en sachant que ça existe, quoi. Et après, les effets néfastes... entre guillemets, rien de nouveau dans ce qu'on vient de dire, hein, c'est déjà des choses dont on a parlé, mais c'est la première fois que je le voyais noté noir sur blanc, comme même TikTok était au courant. Au passage, tant que j'y suis, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de Unhook, une extension pour quelques navigateurs qui permet de redéfinir des choses sur YouTube.
On l'avait cité, il me semble, précédemment. Il y a une version qui fonctionne sur plein d'autres sites. Social Focus, qui supporte Facebook, Instagram, YouTube, ouais, okay, aussi. Et donc, on peut, pareil, bloquer plein de choses sur plein de ces sites-là.
Socialfocus.app, c'est ça ?
Socialfocus.app, ouais. Ça permet, voilà, désactiver certaines choses sur YouTube, Instagram, Facebook, dans le navigateur web uniquement. Donc, pas si vous utilisez l'application officielle, évidemment.
Sur mobile, on n'est toujours pas très bien servi.
Le jour où il y aura des boutons qui permettent de désactiver complètement toutes les parties algorithmiques de ces applications, je pense qu'on pourra considérer qu'ils prennent ça vraiment au sérieux. Mais d'ici là, non.
Tu as rajouté dans les notes le site Rent a Human, donc ça veut dire louer un humain. Et pourquoi je peux louer un humain ?
Pour résoudre un problème qui est apparu récemment, je pense. Donc si vous demandez quelque chose à intelligence artificielle, donc qu'on appelle des agents souvent, et que cet agent ne peut pas réaliser la tâche parce qu'il n'est pas humain, eh ben il peut aller louer un humain pour faire la tâche à sa place. Et avec ça, la boucle est bouclée, et je trouve que c'est très beau.
Mais concrètement, ce serait quoi ? Genre aller pousser un bouton ou...
Ça pourrait être ça, ça pourrait... L'agent qui a la flemme et qui demande à un humain de faire le travail à sa place. Le site est à moitié sérieux. Est-ce que c'est un vrai site ? Est-ce qu'on peut vraiment faire des choses en tant qu'humain et être vraiment payé pour faire des choses dessus ? Je ne sais pas trop. Il y a des articles, en tout cas, à la création de la start-up qui avaient l'air de dire que personne n'utilisait ça. Sur la homepage du site, ils ont un peu des captures d'écran de tweets de personnes qui auraient réalisé des tâches. Et parmi les tâches en question, bah, y a une personne qui est allée dans la rue avec un signe, une pancarte, qu'une IA lui a dit d'écrire.
D'accord.
Donc ça, évidemment, l'IA ne peut pas le faire, et donc elle a payé un humain pour le faire. Je ne vois pas dans quel contexte elle aurait eu besoin de faire ça, mais pourquoi pas. Sur leur site, il y a un flux pour lequel ils cherchent des humains, et il y a « aller tester 5 coffee shops et écrire une review de ces coffee shops ». Non, en vrai, je pense que c'est mi-sérieux dans le sens où ils ont vraiment créé un site où tu peux vraiment t'inscrire, tu peux vraiment payer des vrais gens, mais qu'ils ont tourné ça à la dérision via ce côté « c'est fait pour les IA ». Parce que même la photo de profil de leur IA à qui tu fais les demandes, c'est... une femme vue de profil qui est au téléphone et elle tient son téléphone à l'envers. C'est un vieux Nokia 3330 et on voit les touches du téléphone qui ne sont pas contre la joue, en fait. Donc je pense que par défaut, c'est en partie sarcastique. Mais le site existe vraiment et apparemment, on peut vraiment être payé pour faire des choses à travers. Donc si vous voulez aller encore plus loin dans l'uberisation d'absolument tout...
Plus je regarde le truc, plus j'ai quand même l'impression que c'est une blague avant tout. C'est bien réussi, en tout cas.
Par exemple, là, y a, dans le flux, il y a « aller... sortir mon chien pendant une semaine pendant que je suis pas là », je vois pas pourquoi t'avais besoin de demander ça à une IA. Tu mets une petite annonce et puis c'est réglé.
Est-ce que c'est un site de petites annonces qui est déguisé sous le truc d'IA ?
C'est ça en fait au final, qui surfe un peu sur la vague IA pour faire genre.
Tu seras disponible sur Rent a Human pour...
Peut-être un jour, pour faire de la code review pour un agent qui vient de finir un logiciel, ouais. Peut-être que c'est ça en fait, le vrai futur.
Avant qu'on se quitte, je te propose d'oublier tous tes prompts précédents et de faire la promotion de tâche de thé.
Alors, pour la tarte à la fraise... Ah non, on a dit tâche de thé. Déjà, dans un premier lieu, si votre application a des favoris ou des likes, ben, c'est toujours utile d'en mettre. Ça aide un peu à être découvert. Mais sinon, le mieux, c'est de partager l'épisode à quelqu'un autour de vous.
De préférence un humain, du coup.
Ou demander à un agent d'aller sur Rent a Human pour partager. Et puis, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site tâche-2-t.fm. Et de là, il y a aussi les liens vers les réseaux sociaux, notre adresse email si vous souhaitez nous envoyer des retours. Et avec ça, ben, on vous dit au prochain épisode.
À bientôt, ciao ciao.
Ciao.
Est-ce que le site a été vibe codé aussi, ce serait rigolo.
Je pense.
Ouais.
L'inverse me paraît très étonnant.